Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
Bienvenue dans d'autres lectures et changeons d'auteur. Les courts textes qui suivent risquent cette fois de vous, comme on dit, interpeller et vous surprendre un chouïa. Veuillez oublier le premier degré, éventuellement le deuxième, en compagnie de Daniil Arms, un auteur russe né en 1905 et mort en 1942. Au cours de sa courte carrière d'écrivain, il ne fut publié que deux fois pour deux courts textes, et cela de son vivant. Et c'est sans analyse, sans débat contradictoire sur le rôle de la littérature, sur l'ovulation des castors, du style, etc. Non, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur une masturbation analytique et vous laisse au plaisir de la découverte. Alter ego. Laissez-moi maintenant vous raconter comment je suis né, comment j'ai grandi, et puis comment on a décelé en moi les premiers signes du génie. Je suis né deux fois. Voilà comment c'est arrivé. Mon papa avait épousé maman en l'an 1902, mais c'est seulement à la fin de 1905 qu'ils m'ont mis au monde, tout ça parce que papa voulait coûte que son gosse naisse juste pour le nouvel an. Papa avait calculé que la conception devait se produire le 1er avril. C'est donc seulement ce jour-là qu'il vint trouver maman en lui proposant de faire un enfant. La première fois, il était allé faire des avances à maman le 1er avril 1903. Comme maman attendait depuis belle lurette cet instant, elle sauta de joie au plafond. Mais comme papa, sans doute, était d'humeur à plaisanter, il ne put s'empêcher de dire à maman « Poisson d'avril !» Maman était tellement vexée que, ce jour-là, elle n'a pas laissé papa s'approcher d'elle. Il fallut attendre l'année d'après. Et le 1er avril 1904, papa retourna voir maman pour lui faire la même proposition. Mais comme elle se souvenait de ce qui s'était passé la fois d'avant, elle eut peur que papa lui fasse la même blague et elle refusa tout net l'abordage. Papa eut beau se déchaîner, rien n'y fit. Elle ne voulait plus être le dindon de la farce. Il fallut attendre encore une année pour que mon papa persuade enfin maman de me concevoir. C'est comme ça que j'ai été conçu le 1er avril 1905. Cependant, tous les calculs de papa ont été flanqués par terre, parce que je suis né avant terme, 4 mois plus tôt que la date prévue. Papa était si furieux que la sage-femme en a perdu la boule et elle a aussitôt essayé de me refourrer à toute force dans l'orifice d'où je venais de sortir. Un ami à nous, élève de l'Académie militaire de médecine qui se trouvait là, dit que c'était impossible de me remettre dedans. Mais la sage-femme s'obstinait à vouloir m'enfoncer et elle finit par y réussir. Seulement il s'avéra que c'était dans le mauvais trou. Ça a déclenché un véritable tohu-bohu. La couchée hurlait « Donnez-moi mon enfant !» La coucheuse répliquait « On vous dit qu'il est en vous, votre môme !»« Comment ça ?» criait de plus belle la couchée. « Comment est-ce qu'il pourrait être dans moi puisque je viens de le faire sortir ?» Mais lui disait la coucheuse « Vous devez faire erreur !»« Comment ça, je me trompe ?» rétorquait la couchée. « Comment est-ce que je peux me tromper puisque je l'ai vu de mes propres yeux, mon enfant ?» Il était couché là, sur ce drap. « C'est vrai, lui répondait-on, mais il aura rampé quelque part. Personne ne savait plus que dire à la couchée. » Comme elle ne cessait de réclamer son bébé, il a fallu faire venir un vrai docteur. Le vrai docteur a examiné la couchée et il en est resté bouche bée. Puis il a quand même trouvé un moyen. On a donné à la couchée une bonne dose de sel anglais. Elle a eu une grosse diarrhée et c'est comme ça que je suis venu au monde une deuxième fois. Papa, lui, continuait de rager, de pester. Il disait qu'on ne pouvait pas appeler ça une naissance, que ce n'était pas un être humain, mais plutôt une moitié d'avorton, et qu'il fallait soit le remettre dedans, soit le placer dans une couveuse. Alors, on m'a placé illico dans une couveuse. On me traite de capucin. On me traite de capucin. Si ça continue, je vais arracher quelques oreilles. Mais, pour l'instant, c'est la renommée de Jean-Jacques Rousseau qui m'empêche de dormir. Pourquoi est-ce qu'il savait tout ? La façon d'emmailloter les gosses et comment trouver mari pour les pucelles ? Moi aussi, je voudrais tout savoir sur tout. À vrai dire, je sais déjà tout. Mais je ne suis pas très sûr de mes connaissances. Les enfants, je sais parfaitement qu'il ne faut pas du tout les emmailloter, mais les exterminer. Pour ce faire, je creuserai une grande fosse au cœur de la ville et j'y jetterai tous les enfants. Et pour éviter que la puanteur de la décomposition ne se répande aux alentours, j'y verserai chaque semaine de la chaux vive. Dans cette même fosse, je ferai jeter aussi tous les bergers allemands. Et maintenant, parlons de la façon de marier les pucelles. Je crois que c'est bien moins compliqué. Je ferai aménager une grande salle publique où les jeunes gens et les jeunes filles pourraient se retrouver, mettons, un jour précis de chaque mois. Toutes les personnes âgées de 17 à 35 ans devraient se déshabiller et se promener nues à travers la salle. Si quelqu'un a plu, le couple va s'isoler dans un coin pour s'examiner à loisir l'un l'autre. Ah, j'ai oublié de dire que chacun portera au cou une étiquette avec nom, prénom et adresse. Si une personne est de votre goût, vous n'aurez qu'à lui adresser une lettre et faire plus étroitement connaissance. Et si un vieux ou une vieille veulent s'en mêler, je propose de les abattre à coups de hache puis de les jeter dans la fosse centrale, avec les enfants. J'aurais aimé vous parler de mes autres connaissances sur telle ou telle matière, mais il faut que j'aille acheter du tabac à la boutique du coin. Je ne sors jamais sans mon gros bâton noueux, au cas où des galopins viendraient se jeter dans mes jambes. C'est peut-être pour ça qu'on me traite de capucin. Mais attendez, mes salauds, que je vous arrache les oreilles! Une conférence. Kananov dit « La femme est un métier à filer l'amour. » Il reçut aussitôt une grande baffe sur la gueule. « Pourquoi » fit-il. Et sans attendre la réponse, Kananov poursuivit. « Je considère qu'il faut aborder une femme par le bas. Les femmes adorent, elles font juste semblant de détester ça. » Kananov prit une nouvelle baffe sur la gueule. « Camarade, c'est intenable à la fin. Si ça continue, je ne dirai plus rien. » Mais ayant attendu un quart de minute, il poursuivit. « La femme est ainsi constituée qu'elle est tout entière molle et humide. » Kananov reçut une nouvelle baffe. Feignant de n'avoir rien remarqué, il poursuivit. « Si l'on renifle une femme... » Là, il prit sur la gueule une torgnole d'une telle violence qu'il porta une main à sa joue en déclarant « Camarade, mais il m'est impossible de poursuivre ma conférence dans ces conditions. Si cela se reproduit, je me tairai pour de bon. » Après une pause d'un quart de minute, Kananov poursuivit. Où en étions-nous ? Ah oui. Eh bien voilà. La femme adore se regarder. Elle s'assoit devant une glace, entièrement nue. À peine eut-il proféré ce mot que Kananov reçut une nouvelle baffe sur la gueule. « Nu !» répéta Kananov. « Vlan ! Une autre baffe sur la gueule !»« Nu !» cria Kananov. « Vlan ! Encore une baffe !»« Nu ! Une femme nue ! À poil la bonne femme !» hurla Kananov. « Vlan ! Vlan et Vlan !» Les gifles s'abattaient sur la tronche de Kananov. « Une bonne femme à poil, avec un godet dans la main !» cria Kananov. « Vlan ! Vlan !» Il pleuvait des baffes sur Kananov. « Une bonne femme avec une queue !» hurla Kananov en essayant d'éviter les coups. « Une bonne sœur à poil !» Mais à cet instant, Kananov reçut une torgnole d'une telle force qu'il perdit connaissance et s'effondra de tout son poids sur le sol, comme foudroyé.
Oh, I'm the Sheik of Araby, and all the women worship me. You should see them follow me around. Not bad. Even wives of all the other sheiks, they beg to kiss my rosy cheeks.
Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.